Bonjour et bienvenue sur DGT Radio, le podcast de partage des connaissances de la DGT. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec notre collègue Mariano Martín Rodríguez, donc qui est traducteur au département espagnol à la DGT. Mariano, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour m'avoir invité.
Alors Mariano, comme l'Espagne préside depuis le mois de juillet le Conseil de l'Union européenne, on s'est dit que c'était le bon moment pour consacrer une émission à la langue espagnole. Et j'ai eu envie de partir d'un article que tu as écrit pour une brochure de la DGT qui s'appelle en français « Les langues, notre histoire vivante ». Je l'ai découverte récemment, elle existe aussi en anglais et en allemand. Et il y a un article pour chaque langue officielle de l'UE, écrit par un traducteur ou une traductrice de la DGT. Et alors quand je t'ai contacté pour que tu nous parles de l'espagnol, j'ai découvert qu'en fait tu étais non seulement traducteur au département espagnol, mais aussi chercheur en philologie, spécialiste des langues romanes, que tu avais écrit une soixantaine d'articles, que tu avais publié plusieurs livres, que tu dirigeais une revue littéraire et que tu avais traduit plusieurs ouvrages à partir de plusieurs langues. Et donc je suis vraiment ravie de pouvoir profiter de ton érudition et de pouvoir en faire profiter nos auditeurs. Mais alors, il y a une question que je me suis posée, une bête question un peu naïve, c'est au fond, qu'est-ce que c'est exactement qu'un philologue ou une philologue? Parce qu'un linguiste, je vois ce que c'est, mais philologue?
Bon, philologue, comme le mot le dit, l'étymologie du mot, ça veut dire qu'on aime la langue et qu'on aime tout ce qui va avec. La philologie, en fait, elle était née à l'époque de la Renaissance, la philologie moderne, pour faire des éditions fiables des textes anciens. Donc c'était les premiers humanistes qui trouvaient des manuscrits de latin ou grec et qui travaillaient là-dessus pour essayer d'offrir un texte qui soit lisible, mais aussi fidèle à l'original présumé. Donc c'est né comme ça, et donc fin du 18e siècle, début du 19e siècle, la philologie s'est élargie aussi à l'étude des langues, pas seulement celles classiques, mais aussi les langues anciennes germaniques ou les langues qu'on appelait orientale à l'époque.
C'est l'ancêtre de la linguistique alors ou quoi?
Oui, en fait les premiers linguistes comme Wilhelm Grimm et ceux qui ont découvert, disons, l'indo-européen et les autres familles linguistiques étaient des philologues qui travaillaient avec des méthodes qui étaient très semblables à celles qui ont utilisées pour la préparation d'éditions, la linguistique textuelle qu'on dit, etc., etc. Puis ça s'est élargi aussi à l'étude de la littérature.
Il y avait une autre question un peu naïve que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de l'espagnol, de la langue espagnole et puis du castillan? Le terme castillan, à quoi est-ce qu'il renvoie exactement et en quoi est-ce qu'il se distingue du terme espagnol?
Bon, disons que c'est une affaire assez compliquée du point de vue politique, social, etc. Mais en fait, pour l'Espagne, parce que pour les pays de l'Amérique hispanique, où l'on parle espagnol, les termes castillan et espagnol ne sont pas connotés politiquement. Donc, on les utilise d'une façon complètement naturelle. Ça dépend des pays. Il y a des pays où la dénomination espagnole est préférée. Par exemple, je pense que c'est le Mexique où ils préfèrent l'espagnol, tandis que dans d'autres pays, ils préfèrent le castellano. C'est le cas, par exemple, de l'Argentine, où ils disent tout le temps castellano. Mais en fait, en Espagne, il y a plusieurs langues, comme tout le monde connaît. Et l'espagnol, disons l'espagnol officiel, est basé sur les dialectes castillans. C'est pour cela qu'on appelle le castillan, de même qu'on dit, on parle pas de britannique, on parle d'anglais. Parce que c'est la région où l'anglais, disons, officiel a été normalisé, devenu, c'était la langue de la cour. Il faut pas oublier non plus que l'Espagne a été une monarchie, elle est toujours une monarchie. Donc la cour, elle se trouve à Madrid, elle se trouve au plein milieu de la Castille, et donc c'est toujours le castillan. Donc en fait, ce sont des termes aujourd'hui complètement synonymes. Mais je préfère utiliser le castillan quand même parce que je préfère utiliser le critère historique. L'espagnol actuel est basé fondamentalement sur les dialectes castillans. Et du point de vue historique, c'est un terme beaucoup plus exact que le terme espagnol qui est un peu vague. Parce que, comme j'ai dit, il y a d'autres langues espagnoles dans l'État espagnol, dans le royaume d'Espagne.
Alors, quand on s'est rencontrés, je t'ai demandé combien de langues romanes tu maîtrisais. Et alors, tu m'as répondu dans un éclat de rire, aucune, même pas la mienne. Et alors... et là, je me suis dit que c'était vraiment une blague de linguiste. Et que ce que tu voulais dire, c'est qu'au fond, On peut dire qu'on ne maîtrise jamais complètement une langue, même pas sa propre langue maternelle, parce qu'une langue nous échappe toujours, on ne peut pas
Oui,
en connaître.
on l'apprend toujours.
On apprend toujours,
Et
voilà.
surtout pour l'interdicteur, même pour les vocabulaires. Dans le cadre de mon travail, je suis en train toujours d'apprendre de nouvelles expressions, des technicismes que j'ignorais complètement. J'ai eu un document sur le safran et j'ai appris des termes. On m'a même dit chercher des termes qui n'existent même pas en espagnol pour expliquer des technicismes turcs persans.
Mais alors, je me suis dit que j'allais te poser la question un petit peu différemment et que j'allais te demander, mais quelle langue romane est-ce que tu as étudiée? Quelle langue romane tu peux lire et traduire?
Bon, d'abord, j'avais appris le portugais sur l'État, lorsque j'ai parti en vacances avec ma famille à Lisbonne. Et puis, j'avais le français à l'école secondaire, et au lieu de l'anglais. À l'époque, c'était le français pour les garçons et l'anglais pour les filles, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai étudié le français, lorsque j'ai commencé les langues romanes. Les deux langues principales que j'avais, c'était le français et l'italien. Je lisais le catalan parce que quand on connaît le français et l'espagnol, lire le catalan, c'est relativement simple. Et ensuite, ici à la commission, j'ai appris le roumain. Et là, le roumain, j'ai beaucoup aimé dès le début, des premiers jours. Alors, j'ai beaucoup approfondi. Et maintenant, je me suis mis à étudier le romanche, la plus petite langue romane. C'est une petite langue qui parlait par à peine 30 000 personnes, mais qui est quand même très vivante et qui a une production culturelle vraiment époustouflante pour une petite langue. Ils ont même des opéras, ils ont du rap, ils ont de la musique pop, assez bonne d'ailleurs.
Alors, j'en viens à l'article que tu as rédigé pour la DGT. Alors, il porte plus spécifiquement sur l'histoire du castillan et en particulier sur une période qui semble avoir beaucoup compté dans l'histoire de la langue, qui est le XIIIe siècle. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au XIIIe siècle pour la langue espagnole?
Bon, à l'époque, il faudrait dire la langue castillane, hein, parce que oui. C'était le royaume de Castille, il y avait le royaume d'Aragon, où les catalans n'étaient pas la seule langue, mais qui était la langue officielle, l'une des deux langues officielles. Et il y avait aussi le portugal, qui faisait partie du concept de l'Espagne héritée de la province romaine d'Espagne et aussi du royaume visigoth d'Espagne. Donc, à l'époque, au Moyen-Âge, le mot Espagne désignait toute la péninsule ibérique. Donc, il faudrait parler du royaume de Castille, qui était quand même aussi un royaume multilingue, parce qu'on parlait galicien, qui est plutôt lié au portugais, surtout à l'époque. Et c'était aussi langue du royaume. Donc, mais à l'époque, le castillan était déjà écrit. On connaît déjà les poèmes de Mio Cid, l'épopée du XIIe siècle, sur le Cid, sur l'héros qui a eu une longue fortune littéraire à l'avenir, après. Surtout, on passe à Corneille, à la tragédie de le Cid, etc. Mais la prose, elle n'était pas aussi développée. Elle commençait à être développée. Mais c'était surtout la volonté royale et la situation sociologique du royaume de Castille, surtout dans les villes les plus importantes de la Castille, qui se trouvaient normalement au centre, dont Tolède et même d'autres, où dans ces villes, il y avait plusieurs communautés religieuses et chacune avait une langue de culture différente. Et dans ma ville même, Tolède, qui a été, je pense que c'est le roi Alphonse X, duquel on va parler beaucoup plus maintenant. Je pense qu'il est né dans ma ville, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il est né dans ma ville. Et à cette période-là, la ville a été peuplée par plusieurs communautés religieuses et linguistiques. Il y avait les chrétiens, où pour eux, le latin était clairement la langue de culture. Il y avait les musulmans, pour lesquels l'arabe était la langue de culture. Et dans ma ville même, l'arabe était aussi langue parlée par les chrétiens, à cause de l'histoire. Et il y avait aussi une importante communauté juive, pour laquelle l'hébreu était la langue de culture. Alors, le roi de Castille était roi pas seulement sur des chrétiens, mais aussi sur des musulmans et sur des juifs. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'exclusion. Le roi était un roi de tout le monde. Et le problème, c'était que les trois communautés avaient des langues de culture différentes. La seule langue commune était en fait le vulgaire, ce qu'on appelait la langue vulgaire, qui était le castillan. parce que le castillan, qui était parlé d'abord par les chrétiens, ça a été aussi adopté par les sujets juifs et musulmans du royaume. Donc le castillan, c'était la seule langue qui était commune à toute la communauté. Et j'ai lu aussi que les juifs étaient très réticents à utiliser le latin parce que c'était pas leur langue. Et il y avait aussi la question qu'il y avait tout, dans le royaume de Castille, on connaissait l'existence d'une production scientifique et philosophique très importante en arabe et en hébreu. Mais cette production qui était connue partout en Europe, il y avait des savants qui venaient de l'Allemagne, de la France, même des îles britanniques pour apprendre l'arabe, pour pouvoir accéder à cette production, surtout pour la médecine, mais aussi pour la philosophie, parce qu'Aristote, on l'a connu d'abord via les traductions arabes, qui ont été faites d'abord en syriaque, puis en arabe, et qui ont été commentées aussi par Averroès, par exemple, en arabe, dans la péninsule ibérique. Cette production scientifique et philosophique était connue dans le royaume parce que c'était dans l'une des langues du royaume, qui était quand même l'arabe, parce que c'était la langue de la communauté religieuse islamique. Et il y avait aussi pas mal de savants juifs, on peut penser à Maïmonide, à notre commentateur d'Aristote, et aussi ils utilisaient l'hébreu. Alors, ce qu'on faisait à l'époque, c'était on prenait les textes, par exemple le texte en arabe. Et les juifs, normalement, connaissaient aussi l'arabe. Ils ne connaissaient pas le latin, mais ils connaissaient l'arabe. Et ils le traduisaient oralement en castillan,
C'est
qui
ça.
était la langue qu'ils pouvaient parler, parce qu'ils ne connaissaient pas le latin. Et les Juifs étaient vraiment, pas toujours, mais ils étaient vraiment les relais. Les Juifs qui connaissaient l'arabe, l'hébreu et le castillan traduisaient en castillan oralement.
C'est
Parce
ça.
qu'on n'écrivait pas encore le castillan aussi souvent qu'on l'a fait après. Et puis, il y avait encore un traducteur qui traduisait du castillan en latin pour le reste de l'Europe. Mais le roi Alphonse X, duquel je viens de parler, il a décidé que cette culture, ce savoir, ne devait pas rester pour les clercs. Il devait être popularisé. Alors, ce qu'il a fait, c'est de dire que désormais, on ne va pas traduire vers le latin, on va écrire la traduction directement en castillan. Et aussi, ce n'est pas seulement des traductions, il a aussi ordonné, par exemple, qu'on fasse un code légal qui était le premier code, pratiquement le premier code complet depuis Justinien, avec les droits romains, mais avec toutes les nouveautés qui ont été amenées par les germaniques ou la pratique féodale, etc. Et
Est-ce que c'est le code Wisigoth dont tu parles dans ton article ou c'est autre chose?
oui, c'était d'abord le code Visigoth, qui était l'un des plus importants codes qu'on appelle romano-germanique. Mais il y a eu une traduction déjà faite en castillan de ce code, mais le roi a ordonné de faire un nouveau code basé sur le code romano-germanique Visigoth, mais beaucoup plus large et beaucoup plus lié au droit romain, au vrai droit romain.
C'est
En
ça.
fait, c'est l'ensemble légal le plus important de la Rome médiévale.
Mais voilà, ce qu'on découvre avec toi, qui est pour moi vraiment une nouveauté que je trouve vraiment fascinant, c'est que on voit l'importance de l'arabe dans la culture espagnole et dans l'histoire espagnole
Elle est vraie aussi, il ne faut pas
et
l'oublier.
l'hébreu, c'est ça. Et parce que moi, j'ai toujours pensé que l'espagnol dérivait presque entièrement du latin vulgaire, mais en fait, pas du tout. Il y a aussi une importance de l'arabe et de l'hébreu.
L'hébreu, non, parce que l'hébreu est une langue morte aussi.
D'accord.
L'arabe, par contre, est une langue de culture, mais aussi une langue vivante. Hein. Il ne faut pas oublier. Mais disons que le castillan, et comme les portugais et les catalans, qui ont aussi beaucoup d'arabisme, ce sont des langues complètement romanes. Et pour tout ce qui est la grammaire, et la morphologie, la syntaxe, tout. Mais il y a énormément de mots d'origine arabe. Il y en avait plus à l'époque. Il y en avait plus au Moyen-Âge, il y en avait plus même au XVIe, XVIIe siècle. Mais pas mal de mots d'origine arabe sont sortis d'usage, en castillan. En portugais, il garde plus de force.
Et est-ce que tu peux me donner quelques exemples de mots espagnols qui sont d'origine arabe? Est-ce que c'est tous les mots qui commencent par al, qui est l'article
Pas
défini?
tous, mais une grosse partie, oui, parce que
D'accord.
alba, c'est l'aube. Ça commence par al aussi, mais ça vient du latin. Alga, c'est aussi,
C'est
ça
ça.
vient du latin. Mais si le mot est plus compliqué, c'est al et puis encore quelques syllabes, ça vient sûrement de l'arabe. Par exemple, le mot maçon, c'est albañil. Tapis, c'est alfombra. Et sucre, on le dit, c'est un mot d'origine arabe en français, mais en espagnol, on met l'article arabe. Donc on dit azúcar, qui est l'article avant, azúcar. Il y a l'oreiller, on dit almohada. Il y a énormément de mots, oui.
Est-ce que tu peux me citer quelques textes arabes scientifiques ou savants qui ont été traduits à cette époque grâce
Oui.
à Alphonse X?
Oui, il s'intéressait beaucoup plus à la science, disons, aux sciences dures qu'à la philosophie. C'est surtout les matériels astronomiques de Ptolémée, les tables astronomiques, les tables des étoiles, qui étaient traduites du grec en arabe et d'arabe en castillan. Et ces tables en castillan ont été utilisées pour la navigation en Europe pendant plusieurs siècles. C'est un exemple, mais aussi il a écrit un livre très intéressant sur les échecs, sur les jeux d'échecs. C'est aussi l'un des premiers.
Arrêtresse, hein?
Achédrez, un mot
Un mot
d'origine
d'origine
arabe.
arabe,
Et en fait, il y a encore des mouvements qu'on appelle qui viennent de là et qu'on appelle même avec le nom d'Alphonse.
Est-ce que...
Il faut aussi oublier, il ne faut pas oublier aussi qu'il a aussi ordonné écrire une histoire universelle qui était peut-être la plus étendue de l'époque, qui est basée aussi bien sur la Bible, mais aussi sur les mythes grecs, les légendes grecques. Et on vient de la rééditer complètement, disons, dans son intégralité. Je pense que l'année dernière, c'était l'anniversaire d'Alphonse, mais ça doit être plusieurs volumes parce que c'est
C'est ça.
énorme. Et avait aussi ordonné une histoire d'Espagne, qui en plus n'était pas seulement du royaume de Castille, c'était vraiment l'idée d'Espagne, donc toute la péninsule ibérique. Et désormais, le latin ne l'utilisait plus. En fait, les humanistes qui venaient dans le royaume, au 15e, 16e siècle, qui utilisaient le latin comme langue pour se communiquer avec les intellectuels locaux. Bon, le peuple, évidemment, ne comprenait pas le latin. Il se plaignait toujours que les intellectuels espagnols, les clercs, ne savaient pas vraiment le latin. Parce qu'ils
C'est ça.
n'utilisaient pas. On n'utilisait pas pour l'administration. On n'utilisait plus pour l'administration depuis plusieurs siècles.
Donc, à une époque où le latin était la langue savante, la langue religieuse, littéraire, etc., dans le reste de l'Europe, ça n'était déjà plus le cas en Castille, quoi,
Oui,
en Espagne.
même pour la production des belles lettres qu'on dit humanistes, il y en a très peu qui a été écrit en Espagne. Il y a un humaniste très connu, Vives, mais en fait, il était parti très tôt, donc il n'habitait même pas en Espagne. Il était un humaniste international comme Erasme. Hein.
Malheureusement, à un moment, l'arabe et l'hébreu ont quitté le pays. Ça, c'est en 1492. Voilà, c'est la fin disons, de la civilisation
Bon, l'hébreu, on
arabe.
n'a jamais parlé en Espagne. Hein, l'hébreu, parce que c'était une langue.
Oui, c'était une langue morte.
Et l'arabe, il a tenu plus longtemps, l'arabe vulgaire, attention, pas l'arabe littéral, l'arabe colloquial, le dialecte de l'Andalous, il a été conservé dans plusieurs régions, Valence par exemple, jusqu'à l'expulsion de 1613, je pense. C'est pas exactement, mais c'est au début du XVIIe siècle, il y a l'expulsion qu'on appelle l'expulsion des Moriscos, des Maures. Et tous les musulmans espagnols ont été expulsés. Et avec eux, c'est parti l'arabe, qui était quand même très en déclin. Hein. Il y
C'est
avait
ça.
pas mal de musulmans, surtout en Castille et dans la région d'Aragon, où il écrivait des commentaires sur le Coran en castillan et en écriture arabe.
Ah,
Mais
wow.
c'était et même des textes littéraires qui ressemblent un peu aux Mille et une Nuits, mais étaient écrits en roman, en castillan local et avec des lettres arabes.
Et est-ce qu'il y a eu une volonté des rois catholiques ou à cette époque-là de désarabiser le castillan ou
Non,
pas?
la langue n'a jamais été un souci. Je veux dire que, bon, ça a été un souci dans le sens que le roi a décidé que le castillan soit la langue officielle de son royaume, mais ça n'empêchait pas que d'autres langues du pays étaient utilisées, surtout les catalans, dans les royaumes d'Aragon. Mais l'arabe, ça n'a jamais posé de problème.
C'est ça.
Ça n'a jamais vraiment posé de problème. Ce qui posait des problèmes, c'était la religion. Parce que dans cette période-là, et ce qui comptait, c'est l'allégeance religieuse. Ce qui est un peu miraculeux, c'est qu'en fait, dans les royaumes espagnols, le Portugal, la Castille, l'Aragon, au Moyen Âge, il y avait énormément de tolérance. Une tolérance qui était beaucoup plus grande que dans d'autres régions d'Europe. Les Juifs ont été expulsés plusieurs fois des royaumes du Sacre Empire germanique. Ils ont été expulsés de l'Angleterre pendant plusieurs siècles. Ils ne sont revenus qu'au XVIIe siècle. Ils étaient expulsés le XIVe siècle et ils n'ont revenu que le XVIIe, à l'époque de Cromwell, après. Et là, au Moyen Âge, à l'époque d'Alphonse X, mais aussi de ses successeurs, les Juifs, il y avait une communauté juive florissante du point de vue culturel. Il y avait la Kabbalah est née dans le royaume de Castille. Mm-hmm. Par exemple, le plus grand kabbaliste s'appelait Moshe de León. León, c'est une ville dans le royaume. Ouais. Donc, il est quand même en araméen, pas en hébreu. Wow. Et pour l'arabe moins, parce que c'est une communauté qui était plus rurale. Disons que les élites musulmanes étaient parties. Partait normalement lorsque la ville était occupée par les chrétiens. Mm-hmm. La population rurale, oui, mm-hmm. elle restait, mais ce n'était pas une population qui reproduisait une autre culture. Mm-hmm. Mais pour les juifs, c'était différent. Mm-hmm. Il faut aller dans ma ville même, à Tolède, où il y a des synagogues du XIVe siècle qui sont les plus belles d'Europe, mm-hmm. et impressionnantes aussi bien pour la grandeur. Mm-hmm. Ça dit que vraiment, il y avait une tolérance, pas seulement une tolérance. Comme j'ai dit, les rois se considéraient les rois des trois religions. Et parmi ces vassaux, il y avait des rois musulmans du Sud qui considéraient ces vassaux. Donc le système dans les royaumes espagnols du Moyen-Âge, c'était un peu comme le système de l'Empire ottoman.
Exactement, je pensais à l'Empire ottoman.
C'est un peu comme ça. Malheureusement, surtout pour la pression des clercs qui venaient de l'étranger, parce que l'Inquisition, elle n'est pas née en Espagne, d'ailleurs. Elle est née en France pendant la croisade albigeoise. Et il y avait une forte pression pour éliminer cette anomalie de la chrétienté d'un roi qui avait des sujets juifs et musulmans sans problème pour les chrétiens de la région. Et malheureusement, c'est une tendance qui est allée vers plus d'intolérance, mais c'est que ce n'était pas une question purement espagnole, c'est une question européenne.
Et oui, alors il y avait un autre aspect qui m'avait frappé dans ton article, c'est que tu expliques que le castillan est une langue assez uniforme, oui. Et il était déjà dès le XIIIe siècle, et que peu ou prou, on peut dire qu'on parlait à peu près le même castillan à la cour du roi et dans la rue. Et je me demande, qu'est-ce qui a permis ce phénomène d'uniformisation de la langue?
Oui, bon, disons que le latin vulgaire est évolué dans la péninsule ibérique avec beaucoup de variantes qu'on ne connaît presque pas, parce qu'on n'écrivait pas. Il y a quelques textes qui sont conservés, surtout des petits poèmes lyriques, mais qui étaient écrits avec l'écriture arabe et hébraïque, qui indique pas les consonnes, donc c'était pas vraiment pas très favorable pour faire une étude dialectologique, mais on sait que avant la conquête musulmane et même après, les latins de la péninsule ibérique étaient divisés en plusieurs dialectes, de même que c'est arrivé en Gaule, en Italie, etc. Et ces dialectes n'ont pu évoluer que dans le nord, où les royaumes chrétiens ont été constitués très tôt. Donc, il y avait les Galiciens qui étaient évolués vers les Portugais, l'Asturlionais ou Asturien, les Castillans qui étaient à côté du Basque, puis il y avait l'Aragonais et les Catalans qui étaient plutôt importés du sud de la France. À l'époque de la marque hispanique de Charlemagne, je pense qu'il y a eu pas mal d'émigrés du sud de la France, parce que le catalan, en fait, linguistiquement, c'est une langue gallo-romaine, c'est pas une langue hispano-romaine. Mais, et puis il y avait les Galiciens, l'Asturien, les Castillans et l'Aragonais qui étaient très ressemblants. Donc ces royaumes, lorsqu'ils ont commencé à conquérir les villes du sud, c'est leur dialecte qui est descendu avec eux. Le castillan est devenu le dialecte principal dans tout le royaume de Castille et de Léon, qui était le royaume le plus large. Et aussi, il a occupé la place de l'Aragonais, parce que l'Aragonais était très, très, très proche du castillan, et surtout dans la région de l'Èvre, Saragosse, vers le sud, c'est le castillan qui a été adopté par les dialectes locaux, qui est resté dans les Pyrénées, dans les plusieurs vallées des Pyrénées. Par contre, les Galiciens, avec la création du royaume de Portugal, c'est les Galiciens qui a avancé vers le sud et qui a évolué vers les Portugais. Et lorsque le Portugal est devenu un royaume indépendant, ils ont un peu imité la procédure castillane et ils ont commencé à utiliser le Portugais comme langue officielle, etc. Mais à l'époque, la différence entre le Portugais et le Castillan est très minimale. Et en fait, la différence est beaucoup plus grande maintenant à cause de l'évolution phonétique différente des langues. lorsque je suis allé à Portugal la première fois, je ne comprenais rien ce que les gens disaient, mais j'ai acheté Os Lusíadas de Camões, sans savoir un mot de portugais, j'ai commencé à le lire, j'ai compris tout. Parce que c'était tellement près, surtout au 16e siècle, la différence était minimale. Mais bon, les langues, c'est la politique aussi qui fait les langues. Évidemment, le portugais était une langue royale aussi depuis le 13e, 14e siècle. Donc, c'était une langue aussi normalisée, autant que le castillan. Et le catalan aussi, à partir du 13e siècle, a été normalisé, a été utilisé aussi pour la chancellerie royale du royaume d'Aragon, qui était bilingue, utilisait le castillan et le catalan. Et de cette façon, les dialectes qu'on appelle massarabique, qui étaient ceux qui avaient évolué dans le sud, soit ils ont été remplacés par les dialectes du nord, soit catalan, valence, castillan, dans tous les sud, y compris jusqu'à Malaga, et le portugais jusqu'à l'Algarve. Et sinon, il y avait pas mal de régions où ils avaient été remplacés par l'arabe. Et lorsque ces régions ont été reconquises par les chrétiens, c'est aussi l'arabe qui était parlé aussi par des chrétiens. Petit à petit, aussi, il a laissé place au dialecte latin, quoi, qui avait aussi l'avantage d'être des dialectes chrétiens, disons, de la majorité chrétienne. C'est normal que la langue est uniforme parce que les dialectes castillans du Nord étaient parlés dans une petite partie. Donc, c'était une petite région. Donc, il n'y avait même pas la possibilité géographique de trop diviser. Et puis, sur cela, on rajoute au fait, le fait que la langue était unifiée par la cour utilisée dans l'administration dès le début, dans une forme unifiée, ça fait que la langue était très uniforme dans tout le pays, surtout au Moyen-Âge. Évidemment, il y avait une petite différence, mais jamais des dialectes aussi marqués que les dialectes d'Oï ou les dialectes italiens. Quoi.
Ouais,
jamais,
ça.
Jamais.
Donc, on a pas mal parlé du castillan au Moyen-Âge. Comment est-ce que ça s'est développé ensuite? La question que je me posais, c'est quand on est un locuteur ou une locutrice du castillan aujourd'hui, jusqu'à quand on peut remonter dans l'histoire? Quels auteurs est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire, par exemple, le poème du Cid que tu mentionnais tout à l'heure, qui date du XIIe siècle?
C'est un tout petit peu plus difficile, mais si on y met de la bonne volonté, on peut le lire, sans trop de problèmes. Je veux dire que la chanson de Roland, il faut vraiment apprendre l'ancien français pour pouvoir la lire. Et les castillans, il n'y a pas tellement de différence. Si on pense par exemple que la chanson de Roland, il y a encore des cas, des déclinaisons. Et le poème d'Elphide, non, il y a des vocabulaires. Il y a certaines marques d'influence française qui après ont disparu. Par exemple, les voyelles finales ont été reprises, disons. Il y a eu un moment où elles sont tombées, au moins dans la langue écrite, par influence française.
D'accord.
Mais dans la langue parlée, je pense qu'elles n'ont jamais disparu. Donc, elles se sont réimposées. Mais sinon, la langue n'est pas tellement compliquée. Alphonse le dit, c'est parti mal. Même l'orthographe qu'il a fixé, parce qu'il a fixé aussi l'orthographe, il a été utilisé pratiquement avec des petits changements jusqu'au XVIIIe siècle.
Donc c'est une langue qui a relativement peu bougé,
fait.
Hein?
Oui. Ouais. Okay. Mais le portugais écrit n'a rien bougé non plus. Mais le portugais parlé, par contre,
a beaucoup bougé.
Ah oui. Et le catalan aussi, le catalan est même plus stable que le castillan. Ça ressemble plus au Moyen-Âge. Vraiment, moi j'ai aussi, sans être catalanophone, je pouvais lire déjà les auteurs du Moyen-Âge du XIIIe siècle sans aucun souci. C'est plutôt la langue romane la plus stable. Langue romane plus stable, encore plus stable que le castillan.
Et alors pour finir, j'avais envie de revenir à tes recherches, tes articles, tes projets. Qu'est-ce que tu as dans le pipeline, comme on dit en anglais? Est-ce que tu as des recherches en particulier qui t'occupent en ce moment?
Plusieurs éditions critiques que je dois faire, plusieurs anthologies. La principale, c'est une anthologie de du fantasy espagnol qui a été déjà approuvée pour la plus grande édition académique espagnole, Cathedra. Et je suis très content parce que c'est toujours publié dans des petites maisons d'édition. D'ailleurs, j'ai pu publier avec eux parce qu'il y a un autre collègue qui est déjà en retraite, a aussi publié chez eux. Il m'a dit, pourquoi? Je vais parler avec le directeur, de me dire s'il serait intéressé. Ça a été. Mais puis j'ai d'autres choses. J'ai fait pas mal de traductions pour ma propre revue.
Ah oui, donc tu diriges une revue de... Alors, est-ce que c'est une revue de littérature ou c'est une revue de linguistique? Ou c'est les deux?
C'est de littérature. Bon, c'est de fiction, disons. Pas de littérature, parce qu'on a publié aussi des articles sur des fictions cinématographiques, sur des fictions bande dessinée, tout ça.
Et comment s'appelle ta revue?
Élysée. Élysée, c'est Hélice en espagnol. Il y a plusieurs revues qui s'appellent Élysée, mais la nôtre, c'est revistaélysée.com.
Donc on vous trouve sur Internet?
Oui, bien sûr, c'est open source. On peut aussi acheter les numéros, si on le veut, en papier, mais sur Amazon, mais c'est open source, c'est gratuit, c'est...
Et dis-moi, dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aurais aimé qu'on s'attarde et qu'on n'a pas évoquées ou,
Je pense qu'on a beaucoup à parler pratiquement de tout ce que je trouve intéressant.
Okay.
Et je pense que nos auditeurs vont trouver intéressant ce que j'ai dit. Et si vous voulez en savoir plus, je suis un collègue, hein, je suis toujours disponible.
Ouais.
Pour, justement, mon problème, c'est que je trouve rarement des gens qui s'intéressent vraiment à au même genre de choses auxquelles je m'y intéresse. Mmh. Mais parmi les traducteurs, j'en ai trouvé pas mal. En fait, j'ai des collègues qui ont traduit aussi pour ma revue, qui m'aident pour traduire et qui me traduisent même des textes de l'espagnol en anglais très, très bien.
Mais en tout cas, merci beaucoup, hein,
merci
Mariano. Et puis, je rappelle, hein, donc, tu es traducteur au département espagnol à DGT,
oui.
Et puis donc, directeur de revue et auteur de beaucoup d'articles. Merci et puis alors, bonne chance pour tes projets futurs.
Oui, merci à vous et merci de m'avoir écouté, d'avoir eu la patience de m'avoir écouté.